Yeah.
This is Radio France International.
De Paris, RFI, d'Europe.
Et estos son nuestros titulares.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde. Ce soir, c'est avec Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
À propos du premier anniversaire de la mort de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, assassinée par d'anciens policiers. Pour la rédaction en espagnol, Asbel Lopez.
Bonne nuit, Philippe.
Pour la manière dont le Venezuela a souffert de la panne d'électricité. Et puis Pizemam de la rédaction cambodgienne. Avec la coopération militaire entre le Cambodge et sa nouvelle amie, qu'est la Chine. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir cette décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne, qui n'en finit pas. Il y a eu des votes quasiment tous les jours du Parlement à Londres, et on finit par ne plus rien y comprendre. Alors, petite séance d'explication avec les rédactions du Monde de RFI. Pizemam, à 2 semaines de l'échéance théorique, les députés ont voté jeudi en faveur d'un report du Brexit. Quelles sont désormais donc les conséquences de ce vote?
Oui, Philippe, pour une fois, le Parlement britannique vote en faveur de la motion proposée par Mme Theresa May. La motion approuvée jeudi soir engage la Première ministre britannique à solliciter de l'Union européenne un report du Brexit au 30 juin, mais à la condition que le Parlement britannique approuve l'accord, l'accord qui a fait déjà l'objet de rejet à 2 reprises déjà. Un nouveau vote aura lieu le 19 mars prochain. Or, si le Parlement britannique persiste à refuser cet accord, dans ce cas, le gouvernement britannique doit demander un report du Brexit à 1 an.
Alors, c'est la menace que brandit Theresa May pour forcer les parlementaires britanniques à adopter l'accord de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles. Pour elle, le report du Brexit peut amener le pays dans un chaos, dans une incertitude totale.
Oui, Philippe, en effet, un report d'un an, voire plus, serait un cauchemar pour les députés europhobes britanniques. Que peut-il dire à les électeurs qui souhaitaient le divorce avec l'Union européenne et qui ne comprennent pas qu'ils prennent si longtemps? Par ailleurs, comment ils vont faire avec les élections européennes en mai prochain? Theresa May espère donc récolter des voix jusqu'ici très austères à son plan de divorce afin d'adopter l'accord et afin d'éviter d'entrer dans une phase chaotique, celle d'un report de longue durée. Mais le pari n'est pas gagné car elle a besoin tout de même 80 voix de plus.
En tout cas, l'Union européenne entend bien faire comprendre aux Britanniques que ce report du Brexit n'est pas si simple que cela.
Oui, bien sûr, Philippe, d'après Bruxelles, pour repousser l'échéance prévue par l'article 50, le Royaume-Uni doit faire une demande en bonne et due forme avant le 29 mars. La requête doit être aussi motivée et ensuite les 27 pays doivent voter à l'unanimité. Néanmoins, la question juridique commence déjà à se poser à Strasbourg concernant les élections européennes. Emmanuel Macron et Angela Merkel exigent le Royaume-Uni d'organiser les élections européennes si le report va au-delà du 23 mai. Sinon, Londres doit se contenter d'un délai technique de quelques semaines, selon Jean-Claude Juncker.
Oui, donc oui, parce qu'il y a des élections européennes, la question serait de savoir si les Britanniques doivent y participer ou pas. Asbel Lopez, vous avez parcouru, vous, la presse en espagnol pour nous dire ce que pensent aujourd'hui certains éditorialistes en Espagne comme en Amérique latine sur ce Brexit qui n'en finit pas.
Touché, écrit El País, touché sévèrement et même agonisant pour le journal espagnol, c'est le sentiment qui prédomine au lendemain de la décision du Parlement et du gouvernement britannique de demander aux 27 une prolongation du processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le fait de demander une prolongation s'explique, selon El País, par l'extrême incapacité de l'État britannique à se mettre d'accord avec lui-même. Il ne sait toujours pas quelle était son aspiration. S'agissait-il d'un Brexit dur, soft, resté, une situation intermédiaire? Il est clair pour ce journal que May a obtenu 0 résultat, mais au contraire une succession de défaites, les unes plus retentissantes que les autres.
L'avenir est donc sombre, selon ces éditorialistes, Asbel. Il n'y a pas de note optimiste dans la presse en espagnol que vous avez lu?
Oui, à Bogota. El Tiempo écrit aujourd'hui, il y a davantage de doutes que de réponses après 2 années d'un processus accidenté qui s'est transformé dans une agonie sans fin. Cette ambiance est très regrettable pour Fausto Pretelin, éditorialiste pour El Economista du Mexique. Il estime que l'Union européenne est le modèle politique plus réussis du XXe siècle. Il reconnaît bien sûr des imperfections à l'Union européenne, mais selon lui, la somme de ces imperfections sera toujours inférieure à sa principale mission, empêcher les conflits armés. Le risque pour les 27, 6 décennies après sa fondation, c'est que lors des élections européennes de mai prochain, les nains du cirque nationaliste, qui ont bien grandi, puissent fragiliser les 27.
Et il y a autre chose qui a retenu votre attention, c'est un entretien que vous avez lu dans un journal argentin.
Oui, en effet, j'ai relevé un détail positif pour le futur des 27 dans un entretien à un professeur de droit international à Londres, Gleider Hernandez, britannique d'origine canadienne. Il explique au journal argentin Clarín qu'une bonne partie de la stratégie de Londres était basée sur le fait que l'Union européenne n'allait pas parler d'une seule voix. C'est-à-dire que la solidarité entre les 27 n'allait pas résister aux négociations du Brexit, qu'ils allaient se diviser, ce que le Royaume-Uni aurait exploité à son avantage. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, il constate une grande solidarité des 27 en adoptant une position commune face à Londres.
Lucia Mouzel, il faut insister sur le fait que les étrangers porteurs d'un passeport européen qui vivent en Grande-Bretagne sont également concernés par le Brexit. Alors, vous nous en parlez parce que parmi eux, il y a des Brésiliens.
Oui, tout à fait. Notre correspondante à Londres s'est penchée sur le sujet et son article a suscité de nombreuses réactions car la communauté brésilienne au Royaume-Uni est une des plus importantes de la diaspora brésilienne. Il s'agit d'environ 120 000 personnes, bien sûr, toutes n'ont pas le passeport européen, mais celles concernées devront se préparer au Brexit comme n'importe quel Européen qui habite là-bas. Donc l'avocate brésilienne Vitória Nabes a participé à plusieurs campagnes d'information auprès de la communauté brésilienne ces derniers mois. Elle a été interviewée par notre correspondante et a expliqué qu'il faudra s'enregistrer au service d'immigration britannique et ça jusqu'au 31 décembre. On l'écoute.
São dois anos e pouco que a gente está vivendo, desde a votação.
Alors, quelle précision elle vous a donnée?
Depuis 2 ans, donc, elle est très sollicitée car beaucoup de Brésiliens en possession d'un passeport européen n'avaient pas encore réalisé qu'ils devront vivre autrement maintenant au Royaume-Uni après tant d'années d'immigration. Ceux qui ne seront pas enregistrés pourront même être expulsés du territoire comme n'importe quel Européen qui habite au Royaume-Uni. À partir de 2021, ils devront tous posséder un visa.
Philippe. Et votre service, la rédaction brésilienne, a également contacté une économiste et professeur britannique. Alors, qui utilise son corps pour dénoncer les effets négatifs de ce Brexit sur l'économie britannique. Que fait-elle précisément?
Alors, il s'agit de Victoria Batman, une professeure à Cambridge et docteur en histoire de l'économie à la prestigieuse université d'Oxford. Et depuis des mois, elle donne des conférences complètement nues pour dénoncer justement le fait que, selon elle, le Brexit mettra le Royaume-Uni à nu. C'est en fait une analogie avec le fameux conte sur les habits neufs de l'empereur d'Andersen. Et bon, cette économiste de 39 ans enregistre aussi des vidéos, toujours à poil, dans lesquelles elle dit que les problèmes des Britanniques, tels que le manque de logement ou les salaires qui sont stagnés, ne sont pas du tout causés par l'Union européenne. Et comment donc espérer que le Brexit pourrait-il aider les Britanniques de quelque manière, demande-t-elle.
Et gageons que ces étudiants ne manquent aucun cours. cette semaine encore, cette professeure a plaidé pour que le Parlement britannique rejette l'accord de sortie de l'Union européenne.
Oui, dans une vidéo, on la voit dans un beau salon, toute nue bien sûr, avec le mot Brexit écrit sur la poitrine. Victoria Batman a demandé aux députés de voter selon leur propre conscience dans cette semaine historique, selon elle, pour les générations à venir. On va l'écouter.
I'm standing here naked at the start of a historic week.
Donc elle dit que seulement la permanence dans l'Union européenne peut vraiment assurer le maintien de toute une série de libertés au peuple britannique. Depuis ses polémiques apparitions, Victoria Batman, qui se revendique très féministe, elle est la cible de nombreuses attaques sur Internet, notamment des partisans du Brexit. Ils l'accusent même de prouver que donner le droit de vote aux femmes a été une erreur. Et elle leur répond toujours qu'elle utilise son corps comme elle entend bien, Philippe.
Merci à vous, Lucia Mouzel. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplin.
Il en a beaucoup été question sur les différentes antennes de RFI, cette panne d'électricité géante qui a frappé le Venezuela plus d'une semaine après. La situation n'est pas encore totalement revenue à la normale, même si le service a été rétabli notamment à Caracas, la capitale. Asbel Loves, vous avez recueilli au service en espagnol des témoignages de Vénézuéliens sur ce qu'ils ont vécu ces derniers jours.
Oui, en effet, nous avons reçu des témoignages à notre numéro de téléphone WhatsApp. Et même si c'était très difficile pour les Vénézuéliens de charger leur portable, certains nous ont adressé quelques mots. Nous sommes sans électricité et sans eau. Depuis le 7 mars, nous a écrit un habitant de l'état de Barquisimeto au quatrième jour de la panne. C'est une tragédie perdre la nourriture que nous avons dans les frigos, dans un pays où les gens meurent de faim à cause de la pénurie d'aliments. La situation est désespérée, ajoute cette personne. Écoutez aussi ce qu'il nous a dit un autre Vénézuélien.
Nunca pensé de mis años de vida, tengo 47 años.
Il parle de tragédie.
En effet, de tragédie, mais aussi qu'il a 47 ans et jamais il aurait pensé qu'il allait vivre en situation pareille. Voilà le sentiment, me semble-t-il, de la grande majorité des Vénézuéliens, car je vous laisse imaginer, nous sommes au 21e siècle, vous êtes citoyen d'un pays pétrolier. Or, pendant 5 jours, vous n'avez plus d'électricité. Une autre habitante de Caracas, désabusée, témoignait ainsi à la presse, pas d'eau, pas de lumière, pas de médicaments, pas d'argent liquide et pas de transport formidable.
Donc au manque de lumière, il y a aussi, donc, vous le disiez, le manque d'eau.
Oui, dans ce pays, 10% de l'énergie est consommée pour pousser l'eau dans les foyers grâce à des pompes électriques. Les gens se ravitaillaient comme ils pouvaient et se lavaient dans les fontaines des parcs ainsi que dans les rivières, souvent polluées. Plus de 500 commerces aussi ont été pillés dans la région pétrolière de Maracaibo. Washington, pour sa part, a décidé de retirer tout son personnel diplomatique.
Alors, il reste la question de savoir quelle est la cause de cette panne. Et alors là, on rentre dans un imbroglio politique avec des accusations qui fusent de toutes parts.
Oui, car selon Maduro, il s'agit d'une attaque des États-Unis. À leur guerre économique s'ajouterait une guerre électrique. Et Guaido, quant à lui, explique la panne à cause du manque d'entretien des infrastructures du pays dû à la corruption. Et en fait, les experts disent qu'il s'agit... Ils pensent plutôt qu'il s'agit d'un accident technique et les analyses des experts que j'ai lues dans la presse penchent plutôt pour une panne technique. Et selon certains, un feu de brousse aurait endommagé la ligne de très haute tension qui transporte l'électricité produite par le barrage de Guri. En tout cas, il n'est pas un mystère pour personne que le système électrique du Venezuela est ancien et mal entretenu. Les pannes qui affectent le réseau sont d'ailleurs fréquentes et cela depuis longtemps, Philippe.
Et c'est justement l'accusation de Juan Guaido, hein, d'accuser pas son prédécesseur, mais le président du Venezuela de ne pas avoir fait les investissements nécessaires. Asbel Lopez de la rédaction en espagnol de RFI. Au Brésil, cette semaine, il a beaucoup été question de l'assassinat, voilà un an, de la conseillère municipale Marielle Franco, tuée à Rio. Et Lucia Mouzel, pour la première fois, la police présente le visage des deux suspects, des deux hommes qui sont suspectés donc d'avoir commis ce crime.
Oui, c'est ça. La veille de l'anniversaire de la mort, la police a enfin présenté les premières conclusions de l'enquête menée depuis ce fatidique 14 mars 2018, quand Marielle Franco et son chauffeur Anderson Gomez ont été tués à sang-froid à la sortie d'une conférence à Rio. Je vous rappelle que Marielle était défenseur des droits de l'homme et contre le racisme et les violences policières. Ces crimes ont choqué le Brésil et tout le monde. La presse française s'y intéresse beaucoup d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, l'enquête montre que ce sont justement deux anciens policiers qui ont été arrêtés, suspectés d'être les auteurs de ce meurtre. Il pourrait être en lien avec ces espèces de paramilitaires qui contrôlent plusieurs favelas à Rio, et on les appelle les miliciens. Et un des suspects était obsédé par des personnalités de la gauche brésilienne. Les enquêteurs ont expliqué qu'il a suivi de près le quotidien de Marielle et d'autres politiciens qui auraient pu être assassinés eux aussi.
Alors là, on parle des exécutants. Il y a maintenant la question de savoir qui a commandité ce crime.
Tout à fait. Figurez-vous Le président Jair Bolsonaro, qui est ancien député de Rio pendant longtemps, il se retrouve dans une situation qui est pour le moins délicate dans cette affaire. Le suspect d'avoir tiré 13 fois sur Marielle à un appartement dans le même immeuble que Bolsonaro. Et le deuxième suspect, lui, apparaît sur une photo aux côtés de Bolsonaro avant son élection. Et sa fille a même eu une relation avec un des fils du président. Tout cela peut être des coïncidences, bien sûr, mais le silence, voire la posture assez ambiguë du président et de ses fils sur cette affaire interpelle ses opposants sur son éventuelle participation d'une quelconque manière. Hein.
Oui, c'est troublant.
Oui, voilà. Nous avons interviewé donc Monica Beni sur la campagne de Marielle Franco. Pour elle, il n'y a pas de doute, il s'agit d'un crime politique.
Todas as linhas devem sim ser investigadas, mas que não descarta a possibilidade de um mandante, porque obviamente foi um crime político.
Quelles sont ses explications?
Elle dit que toutes les lignes d'investigation doivent être vérifiées, notamment celle d'un crime politique, car elle veut savoir qui a commandé ce meurtre et avec quel objectif. Et Monica souligne cependant que l'on ne doit pas tomber dans la spéculation, comme elle dit. Le plus important pour elle, c'est de connaître vraiment la vérité.
Et un an après, les hommages sont rendus à Marielle Franco. Ils se sont multipliés partout dans le monde, y compris à Paris.
Oui, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu'à sa mémoire, la mairie proposera au prochain Conseil de Paris qu'un lieu lui soit dédié. Nous avions déjà anticipé dans notre rédaction qu'un collectif de Brésiliens avait écrit à Madame Hidalgo pour lui demander qu'une rue de la capitale soit nommée Marielle Franco à son honneur. Et également, l'ONU s'est prononcée cette semaine. Un groupe de défenseurs de droits de l'homme a félicité le progrès vérifié dans l'enquête. Mais le texte souligne qu'il faut faire davantage et afin de découvrir les raisons et qui est derrière cette attaque. Nous continuerons bien sûr à suivre de près cette affaire dans notre rédaction, Philippe.
La rédaction brésilienne à laquelle vous appartenez, Lucien Musel. Au Cambodge, en ce moment même, se déroule un exercice militaire entre l'armée cambodgienne et l'armée de libération du peuple chinois. Des manœuvres qui impliquent de très nombreux soldats. Pizemam, par son importance, en effet, cet exercice en dit long sur l'état des relations entre le Cambodge et la Chine.
Oui, Philippe, en effet, après les deux fois précédentes assez timides, cette fois, l'exercice militaire conjoint entre l'armée cambodgienne et l'armée chinoise, baptisé l'opération Dragon d'Or, compte au total 250 soldats chinois et plus de 2000 soldats cambodgiens. Un hasard peut-être, mais en 2017, le gouvernement cambodgien, M. Hun Sen, a décidé de suspendre les exercices militaires annuels avec les États-Unis et l'Australie. Et depuis, la Chine reste le plus grand bailleur de fonds du Cambodge en matière militaire.
En novembre dernier, un article d'un journal hongkongais avait souligné que la Chine aurait à construire une base militaire au Cambodge.
Oui, en effet, c'était le journal Asia Times qui cite des sources diplomatiques anonymes selon lesquelles les Américains craignent une installation d'une base navale chinoise à Korkong. Effectivement, depuis 2008, la Chine construit un port d'eau profonde là-bas. D'ailleurs, Korkong n'est pas loin de Sihanoukville, une autre province côtière où les Chinois s'implantent déjà très bien avec une centaine de casinos et des projets immobiliers faramineux. L'installation d'une base navale chinoise à Korkong semble assez logique du point de vue de la Chine pour protéger ses intérêts dans cette région où les conflits territoriaux sont toujours actuels.
Néanmoins, le gouvernement cambodgien dément catégoriquement cette information.
Oui, Philippe, M. Hun Sen, Premier ministre du Cambodge en personne avait déclaré le 19 novembre qu'il a répondu à une lettre du secrétaire d'État américain. Monsieur Hun Sen assurait aux Américains que jamais le Cambodge n'approuve un tel projet chinois. Répondant aux critiques comme quoi le gouvernement est en train de vendre le pays aux Chinois, le Premier ministre Hun Sen a déclaré que
on entend donc le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, que dit-il?
Alors, il déclare que je veux que ça soit clair, jamais les Khmer laissent la Chine contrôler le pays. Et puis de toute façon, la Chine n'a aucune envie de contrôler un pays étranger. La Chine souhaite simplement devenir bon ami avec tout le monde.
Oui, la Chine, et pas simplement le cas du Cambodge, hein, c'est aussi pour les autres pays de la région.
Hein. Tout à fait.
Merci à vous, Pizemam, de la rédaction cambodgienne de RFI. Merci à vous tous pour ce qu'il y a à écouter sur les différentes antennes de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde sur RFI.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en chinois.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点至23点。第二节广播国际标准时间每天11点至12点。
Écoutez et retrouvez les fréquences de RFI en chinois sur cn.rfi.fr.